Alors nous continuons notre culte par notre série sur les Actes des Apôtres. La semaine dernière, on a vu le chapitre 1. Aujourd'hui, on voit le chapitre 2. Et vous avez compris, les fois suivantes, on verra les chapitres suivants. Alors rassurez-vous, hein, je vais laisser la place à d'autres pour les chapitres suivants. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, te remercions pour ta parole, pour la Bible, pour ce qu'elle nous apprend sur toi, ce qu'elle nous apprend sur Jésus, ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Te remercions parce que nous recevons de toi tout ce dont nous avons besoin. Amen. Alors, il faut que j'attrape la zapette. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par la lecture des premiers versets, si vous voulez suivre. Voilà. On ne va pas tout lire, bien sûr, parce que c'est un chapitre qui est long. J'ai fait quelques coupes, mais on va voir l'essentiel. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Donc il s'agit des disciples de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il y en a d'autres qui se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors le jour de la Pentecôte, hein, vous le savez, le Saint-Esprit fait son entrée. Il est reçu par chacun du groupe de 120 disciples de Jésus, hommes et femmes. 120 personnes, ça fait du monde. Alors bien sûr, c'est la suite du chapitre 1, je vais pas redévelopper le chapitre 1, et vous pouvez écouter sur Internet. Mais Jésus, juste avant d'être enlevé au ciel, dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem, ne faites rien, ne bougez pas, vous allez recevoir un baptême dans le Saint-Esprit, un grand plouf dans le Saint-Esprit. » Et on l'a vu au chapitre 1, chaque jour, ce groupe de 120 personnes attendait. Ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Ils étaient dans un état d'esprit pas agréable, ils avaient peur, ils étaient craintifs, ils avaient des préoccupations centrées sur eux-mêmes, ils étaient tournés vers le passé. Ça sentait le renfermé. Mais voilà que le Saint-Esprit arrive. Et il se passe un événement imprévu, inattendu. Tout d'abord, le texte nous dit qu'il y a eu un grand bruit, un grand coup de vent. Et rappelez-vous que le mot vent et le mot esprit, dans les langues originales, c'était le même mot. La venue du Saint-Esprit s'accompagne d'un bouleversement physique, presque météorologique. Hein, on dirait au niveau local une petite tornade qui fait tellement de bruit que les gens de la ville entière accourent pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est la grande stupéfaction. Le texte insiste sur l'étonnement des badauds, des gens du quartier, des gens de toute la ville qui sont arrivés pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui a fait ce bruit? Et alors, ils voient les disciples de Jésus qui devaient être tout joyeux. Alors, il y en a de loin qui disent, mais ils ont bu. Ils sont complètement sous. D'autres s'approchent et entendent les disciples de Jésus, ces hommes, ces femmes, qui parlaient et qui rendaient gloire à Dieu dans des langues étrangères. Et les étrangers qui étaient là disaient, mais je les entends parler dans ma langue. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, deux remarques. Vous voyez, les disciples qui vivaient cachés sont mis à découvert. Les gens courent de la ville pour voir ce qui se passe. Ça y est, c'est fini. Plus besoin de s'enfermer dans les chambres hautes. La deuxième remarque, c'est que l'arrivée du Saint-Esprit sur les 120, hommes et femmes, leur procure beaucoup de joie. Et on l'a vu dans le chapitre 1, Pierre avait pris la parole, il avait préparé son petit discours, et là aussi, il va prendre la parole et va faire un autre discours, Et ce discours est raconté dans le détail. Alors ce matin, on va faire une petite synthèse, on va regarder donc les phrases clés. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9h du matin. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous, vos fils, vos filles, dit Dieu, vos fils, vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophète. » Pierre donne une première explication. Non, nous ne sommes pas complètement ivres. Vous assistez là à la réalisation de la promesse annoncée par les prophètes du peuple juif. Joël l'avait écrit, et chacun peut constater que c'est bien ça. On voit des hommes et des femmes qui prophétisent. Alors Pierre continue son discours et répond à la question que tous se posent. Mais comment est-ce possible? Et là, Pierre annonce l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli. Alors Pierre fait aussi un exposé sur le roi David. Bon, je ne développe pas. Mais voilà comment il conclut. Ce Jésus, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui a été promis et il a répandu, c'est ce que vous voyez et entendez. Que toute la maison d'Israël le sache donc, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Voici donc la réponse de Pierre à cette question. Mais comment cela est possible? Pierre leur dit, ben nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est la preuve de la résurrection de Jésus. Car Jésus, c'est vraiment le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Vous, il parle à les gens de son époque, hein, vous l'avez tué, vous croyez que c'était un fou ou un blasphémateur, mais Dieu lui a redonné la vie, il l'a élevé à la place suprême, et de là, il envoie le Saint-Esprit promis. Alors les gens sont encore stupéfaits et demandent, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, ce texte, il parle de nous. Nous qui sommes au loin, éloignés, alors évidemment, géographiquement de Jérusalem, mais surtout éloigné dans le temps, 20 siècles plus tard. Et pourtant, nous continuons à recevoir le baptême, comme Margot ce matin, et nous continuons à recevoir le pardon de nos péchés, et nous continuons aussi à recevoir le Saint-Esprit. Alors le chapitre se termine aussi par ces versets qui sont bien connus et qui décrivent de manière très succincte, de manière presque idéalisée, la situation de l'Église naissante. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Vous imaginez 3000 baptêmes? Je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais bon. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et des prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Alors nous venons de faire un bref résumé de ce chapitre qui contient trois étapes. La venue du Saint-Esprit, le discours de Pierre et le résultat que ça a produit. Vous voyez l'intention de l'auteur? ne fait pas que raconter des choses. Hein. Il nous fait comprendre comment les choses arrivent. Alors ce matin, je voudrais aborder deux sujets. Je voudrais parler ce matin un petit peu du Saint-Esprit qui est donné sous forme de promesse. Comment on le reçoit et pourquoi on le reçoit. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu du résultat auquel nous assistons à la fin de ce chapitre. Le résultat, c'est cette communauté de disciples complètement transformée. Nous venons de le lire. Le résultat, c'est une communauté ouverte, vivante, dynamique. Alors le premier point que j'aimerais développer, donc, c'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. D'où vient cette promesse ? Vous le savez, Jésus lui-même l'avait promis à ses disciples. Il leur avait dit, il est avantageux que je m'en aille, car je vous l'enverrai, comme le Père a promis. Et Jésus fait lui aussi référence aux promesses plus anciennes, celles qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Pierre, on vient de le voir, cite un des prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Joël. Et ce prophète, il a dit un truc complètement abracadabrant pour l'époque. Hommes et femmes, tous recevront le Saint-Esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait que trois catégories de personnes qui pouvaient recevoir le Saint-Esprit. C'était le prophète, le sacrificateur, et puis le chef du peuple, qu'il soit roi, qu'il soit un juge ou autre. Mais le membre lambda du peuple, comme moi, comme vous, on n'avait pas à recevoir le Saint-Esprit. Et Joël déclare de la part de Dieu, tous, hommes et femmes, recevront le Saint-Esprit. Ça devait être très choquant et même incompréhensible pour eux. Alors il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui montrent cette promesse. Et j'ai choisi d'en parler de deux ce matin. La première, c'est ce qui se passe avec Moïse. Moïse, lui, non seulement il a annoncé cet événement, mais il l'a vécu en acte. Donc rappelez-vous, Moïse, il avait la lourde charge de représenter Dieu au sein de son peuple. Il était le témoin de Dieu pour son peuple. Et il avait reçu l'Esprit Saint pour ça. Et voici qu'à un moment donné, il réunit 70 hommes du peuple. L'objectif, c'est de partager l'Esprit qui lui a été donné sur ces 70. Et on lit ça dans Nombre 11. Hein. Dieu prit de l'Esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 hommes. Ça, c'est ce que Moïse a vécu. C'est une réalité. Et ces 70 hommes étaient, au même titre que Moïse, des représentants de Dieu pour le peuple. Et vous voyez, c'est la même chose qui se passe au jour de la Pentecôte. Jésus, même s'il n'était plus là en chair et en os, mais il prend l'Esprit qui était en lui et il le répand sur les 120 hommes et femmes. On vient de le lire. On l'a vu, enfin, à l'époque de Moïse, il est dit que ces 70, ils ont prophétisé momentanément. Exactement comme le jour de la Pentecôte, où les 120 ont prophétisé momentanément. Ça veut dire que ça a duré, et puis ça s'est arrêté. Après, on le voit, hein, y a eu d'autres choses qui se sont passées. Mais c'est la même réalité pour chacun et chacune de nous qui croyons. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, dans le Christ, c'est le même esprit, le même souffle divin qui était en Jésus, qui vient nous remplir. C'est ça que Pierre déclare dans son discours. Alors, le second exemple que je voudrais vous donner, c'est le prophète Jérémie. Voici ce que Jérémie écrit. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres quand ils sont sortis d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, déclare l'Éternel. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et en effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh ! Et nous savons et nous croyons que c'est ça que Dieu a réalisé au travers de Jésus. Par sa venue sur la terre, sa mort sur la croix et sa résurrection. Voilà ce que Dieu déclare. Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Pour le peuple juif, ça avait un sens très particulier parce que la loi de Dieu, elle était écrite sur des tables de pierre. Et là, Dieu dit, je vais l'écrire à l'intérieur de vous. Et chacun comprenait que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. La promesse de la venue du Saint-Esprit qui était annoncée dans chaque personne. Alors, par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu déclare une chose terrible. La première alliance faite avec Dieu, enfin faite par Dieu avec le peuple juif, a été bafouée. Elle a été violée, elle a été ridiculisée. Mais Dieu dit, je vais continuer mon projet de réconciliation avec les humains. Je vais mettre en place une seconde alliance. Cette fois-ci, elle ne dépendra pas des hommes et des femmes à qui elle est adressée. Elle ne dépendra que de mon Christ, mon envoyé. C'est lui seul qui sera le garant de cette alliance. Et ceux et celles avec qui je ferai alliance, ça va changer. Dans la première alliance, ils devaient faire des efforts pour suivre mes lois, mes commandements, et ils n'y arrivaient pas. Dans la deuxième alliance, c'est mon envoyé qui aura fait tous les efforts. C'est mon Christ qui aura réussi. Et ceux qui feront alliance avec moi seront au bénéfice de ce que mon Christ a réalisé. Et j'enverrai dans leur cœur, dans leur être intérieur, mon esprit, mon souffle, qui fera rayonner cette alliance en eux. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors, le message de Jérémie, d'une certaine manière, c'est un message de condamnation. Notre prétention à plaire à Dieu par nous-mêmes. Mais c'est aussi un message de bonne nouvelle. Là où tu es en échec, Dieu fait quelque chose pour toi. Il va venir en toi et inscrire directement sa loi dans ton cœur, par son esprit, par son souffle. Et c'est parce que Dieu envoie son esprit dans notre être intérieur que nous pouvons répondre à son salut, à son appel, à son amour. Alors, Paul, lui, cite ce verset. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec Jérémie ? Parce que Jérémie parle de la loi de Dieu dans notre cœur. Toi, tu cites Paul qui parle de l'amour de Dieu déversé dans notre cœur. Rappelez-vous les commandements. C'est quoi le plus grand des commandements ? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu aimeras toi-même. Oui, la loi de Dieu écrite sur nos cœurs, c'est une loi qui nous pousse à l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers soi, l'amour envers l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du chapitre, là, lorsqu'on lit ces quelques versets sur la nouvelle communauté, on le sent, le résultat de cette description d'amour au sein de cette communauté. On la verra juste après. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous fabriquons, que nous faisons. C'est quelque chose qui a été fait pour nous. De même que notre salut, notre pardon des péchés, notre réconciliation avec Dieu, c'est ça la bonne nouvelle annoncée en Jésus. Cette nouvelle alliance que Dieu propose à chaque homme, chaque femme, ne dépend pas de celui ou de celle qui la reçoit. Non, cela ne dépend que de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. C'est lui, Jésus, qui a fait tout ce qu'il faut. Nous ne faisons rien. Nous recevons. Nous ne faisons rien. Nous recevons. Est-ce que tu veux recevoir ? Est-ce que tu as reçu ? Dès notre conversion, dès qu'on se tourne vers Dieu, dès qu'on reçoit la nouvelle naissance, nous naissons de Dieu par l'Esprit. Et l'Esprit vient habiter en nous. Ça ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui a été fait pour nous. Alors, ce matin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ne parlerai pas des différentes phases de l'Esprit en nous. Mais déjà, retenons que l'Esprit en nous nous donne la vie spirituelle qui est en Jésus. Alors, je vais développer très rapidement, plutôt juste citer ce que nous apporte l'Esprit. Paul recommande aux Galates, il leur dit « Puisque vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit, c'est-à-dire accomplissez concrètement la loi d'amour qui est inscrite en vous. » Ce que fait l'Esprit en nous, la Bible en parle beaucoup, particulièrement dans le Nouveau Testament, et je voudrais vous donner quelques exemples. Bien sûr, il y a les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, hein, vous connaissez la liste, jusqu'à la maîtrise de soi. C'est une transformation de notre état d'esprit, de notre caractère, pour ressembler de plus en plus au caractère de Dieu. Parfois, il y a des effets spectaculaires ou surnaturels. Ils sont parfois momentanés ou plus ou moins durables. Paul nous rappelle aussi que la principale préoccupation de l'esprit dans notre vie, c'est de nous orienter vers la paternité de Dieu. La paternité aimante de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait dire à Dieu, mon Père céleste, mon Papa. L'Esprit vient aussi à notre secours dans notre vie spirituelle, pour comprendre la Bible, pour nous aider à prier. L'Esprit vient à notre secours. Il nous avertit du danger. Il vient nous aider à surmonter les épreuves. Paul rappelle dans Philippiens, entretenez-vous par des psaumes, par des chants de l'Esprit. Et puis aussi, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment l'attrister ? Bah, c'est tout simple. Il y a deux manières très faciles d'attrister le Saint-Esprit. Bah, c'est de faire n'importe quoi. On sait tous le faire très bien. Et puis quand on veut avancer spirituellement par nos propres forces, là aussi on attriste l'esprit. Son rôle, c'est de nous transmettre ce que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la vie de Jésus. Il faut bien comprendre que l'œuvre de Jésus, elle s'est passée à 3000 km et il y a 2000 ans. Elle est complètement extérieure à notre vie. Et c'est le Saint-Esprit qui vient la porter, qui vient la rendre concrète dans notre existence. Et de même que notre salut ne dépend pas de nous, c'est quelque chose qui a été fait pour nous, de même, l'Esprit nous apporte ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. L'amour de Dieu, c'est lui qui l'apporte en nous. La capacité de suivre ses lois, la puissance de vivre la vie spirituelle. Alors, qui n'a pas envie de ça ? Chacun de nous qui sommes croyants, nous avons reçu l'Esprit. Ne le laissons pas de côté. Interrogeons-le. Assaillons-le par nos questions. Dis-lui, mais tu me manques là. J'ai besoin de toi. Peut-être je t'ai attristé. Mais reviens, reprends plus de place. Et puis peut-être si tu n'es pas croyant ce matin, si tu remets ta vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, tu recevras le salut de Jésus et tu recevras le Saint-Esprit qui te procurera sa vie. Alors j'avance, je viens à mon deuxième sujet, le résultat que nous voyons à la fin du chapitre. Alors je vous rassure, ça sera bref. Donc nous voyons le résultat de tout ça, de la venue du Saint-Esprit. Vous avez bien compris, il y a la venue qui se passe dans chaque personne, et puis chaque personne rassemblée forme la communauté. Et qu'est-ce qui se passe là au milieu ? On voit une communauté paisible, ouverte sur les autres, une communauté remplie d'affection réciproque et pleine d'attention pour ceux de la communauté et pour ceux qui sont en dehors de la communauté. On voit ça dans les versets 45, 46, 47, hein, je les ai raffichés. L'amour était tel que les uns s'occupaient des autres qui étaient dans le besoin. Ils mettaient leurs biens en commun. Les biens étaient vendus pour les besoins de la communauté. Mais c'est ce qu'on fait, nous aussi. À l'époque, comme aujourd'hui, nous mettons nos biens en commun au travers de nos offrandes, de notre soutien. Et ça sert à quoi ? ça sert à aider les personnes qui en ont besoin. Ça sert aussi à soutenir financièrement. À l'époque, c'était les apôtres. Maintenant, c'est les gens qui travaillent au sein de la communauté. Comme on dit, hein, l'évangile est gratuit, mais pas les loyers, pas la nourriture. Et c'est la même chose pour les apôtres et pour les disciples de Jésus à notre époque. Alors n'idéalisons pas trop cette époque et regardons ce que nous faisons avec joie, car nous faisons la même chose. Nous mettons nos offrandes en commun pour le bien de la communauté, pour soutenir ceux qui en ont besoin au milieu de nous, pour soutenir les pasteurs, et puis partager l'effort financier concernant notre lieu de rassemblement. À l'époque, ils allaient au temple. Nous, on ne va pas de temple, on a construit un bâtiment et on l'entretient. Ça fait partie des choses qu'on a en commun. On voit aussi qu'ils avaient plus peur. Et au lieu d'être enfermés dans la chambre haute à l'écart, maintenant ils se trouvent librement dans le temple, dans un lieu public. On voit aussi qu'il y avait une bonne atmosphère familiale, hein, quand il est parlé des repas pris en commun dans les maisons. Et puis on sent l'amour qui se dégage aussi envers ceux qui ne croient pas. Il est dit là qu'ils avaient la faveur de tout le peuple, c'est-à-dire que les gens les appréciaient. Les gens les aimaient bien. Ils disaient, mais finalement, cette communauté, là, ils sont chouettes, quoi. Ils nous apportent quelque chose. Cette communauté ouverte et témoignante qui permettait à l'évangile de se diffuser. Vous voyez, donc c'était aussi un projet de la communauté d'être missionnaire, entre guillemets, dans la ville de Jérusalem. Ben, ça, nous aussi, on le fait. Vous voyez le résultat, la dernière phrase, et c'est ce qui permettait au Seigneur d'ajouter à l'Église chaque jour ceux qu'il sauvait. La formulation est importante. C'est le Seigneur qui sauvait et il ajoutait à la communauté. Voilà. C'est ce que nous vivons aussi. Et c'est ce que nous allons vivre, continuer à vivre. Alors ce tableau qui est dépeint là, hein, on pourrait faire un petit peu de grammaire, parce que là tout est écrit à l'imparfait. Vous savez, le temps, l'imparfait qui exprime la continuité dans le passé. Bon. Donc ça peut paraître idyllique et presque idéalisé, mais dans tous les siècles de la chrétienté, ça a été un point de référence. À différentes époques, les gens ont essayé de reproduire, des fois très systématiquement, cette description. Il y a des gens qui, au Moyen-Âge, ou à la Renaissance, ou au XVIIe, XVIIIe siècle, ont fait des communautés où ils mettaient tous leurs biens en commun. Voilà, et ça existe encore, les frères Moraves, etc. Hein ? Alors, c'est pas le but, forcément, de tout faire comme ils faisaient. Ce qui peut être donné aussi, c'est de nous adapter à notre temps présent et de proclamer ces valeurs, proclamer l'évangile dans notre société. Et c'est surtout d'être une communauté qui vit de l'amour répandu par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça, cet amour, la puissance. Quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous. Alors certains pensent que c'est de la potion magique qui va transformer les chrétiens en je ne sais pas trop quoi. Non, mais le Saint-Esprit qui vient, c'est cette capacité, cette force d'amour qu'il met en nous et qu'il met dans la communauté. C'est ça qui nous permet d'être des témoins. Pour terminer, je voudrais dire que c'est important pour nous de bien distinguer le résultat de l'évangile. Vous voyez, Pierre, il prêche l'évangile. Il explique le salut en Jésus. Il explique la venue du Saint-Esprit en Jésus en leur disant, mais vous n'y pouvez rien, vous ne méritez rien. C'est Jésus qui a tout accompli. Vous le recevez, si vous le souhaitez. Ça, c'est l'évangile. Et le résultat, c'est une communauté pleine d'amour. C'est deux choses différentes. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce qui a été fait pour nous. Le salut en Jésus, le don du Saint-Esprit dans notre vie. Et le résultat de l'évangile, c'est cette vie orientée par l'amour de Dieu, vécue en communauté. Pour reprendre les mots de Pierre, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus qui a été crucifié. Et ce Seigneur, c'est le Seigneur de l'amour divin, qui s'est offert pour nous et qui est devenu le garant de notre réconciliation avec Dieu. C'est ce Seigneur qui envoie l'Esprit, son souffle, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Esprit de vie, souffle de vie. L'esprit de vie souffle en nous. Recevons sa force, sa présence et tout ce qu'elle nous apporte. Amen.